Place Info.
La France en colère. Climat, gilets jaunes, retraite, une partie des manifestants promet pour ce soir une nuit des barricades, référence à mai 68. Et puis, faut-il privatiser le patrimoine? 36e journée du patrimoine ce week-end. La question de la privatisation peut sembler saugrenue et pourtant, c'est une petite musique qui monte face aux montants alloués par l'État pour sauvegarder les monuments. On en débat les monuments, on en débat les infos avec nos informés du samedi. Alors, Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Oriane Mancini, journaliste politique à Public Sénat et présentatrice de Bonjour chez vous. Guillaume Labbé, fondateur de l'agence Comstrat, maître de conférences à Sciences Po Paris. Et Isabelle Alonso, féministe romancière, chroniqueuse à Cinémensuel, Cinémadame et à la télévision sur France 2.
Avec Daphné Burki, Je t'aime, etc.
Eh bien bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. C'est donc un nouveau samedi de tension à Paris avec 150 Black Blocs infiltrés dans les manifestations du jour. En face, 7500 policiers et gendarmes mobilisés et au milieu, forcément, des manifestants mécontents. Écoutez.
Je suis un citoyen. Voilà, qui vient à Paris pour une manifestation qui s'appelle la manifestation pour le climat. Quoi. On n'arrête pas de se faire fouiller, palper et tout. Ça commence à être catastrophique.
On est pacifique, on ne va pas casser, mais là ils sont en train de nous pousser pour que ça monte en pression et après ça va déborder. Ils vont dire c'est les gilets jaunes et on tombe dans le panneau à chaque fois.
On tombe dans le panneau dans chaque fois. Isabelle Alonso, la violence était crainte, elle était au rendez-vous. Scénario tristement banal.
Ben moi, je trouve que si on mettait un tout petit peu moins de forces de l'ordre, les supposées forces de l'ordre dans la rue, je suis à peu près certaine que ça se passerait mieux. Parce que c'est vrai que l'immense majorité des gens qui viennent manifester sont tout à fait pacifiques, ils ont des bonnes raisons d'être là. Je suis toujours un peu catastrophée de voir, enfin moi j'étais à Paris ce matin, j'ai vu des policiers partout, j'ai pas vu un seul manifestant pendant toute la journée. Quoi. Je vois des flics qui partent, qui circulent, les sirènes, les machins. Alors moi, la violence me répugne totalement, mais... Il faut aussi dire qu'on ne parle que de ça, quoi. J'aimerais bien, moi, qu'on parle des gens, pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent, pourquoi ils prennent le bus.
On va parler du fond des manifestations. Ouais, 7500 policiers, c'est ce qui provoque la violence, ou en tout cas, c'est ce qui pousse les gens à se radicaliser. Guillaume Labbé.
Non, ce serait merveilleux. Et si on mettait pas de policiers, ce serait absolument catastrophique.
Ça, hein. J'ai pas dit qu'on en mette pas du tout.
On se rappelle l'image de l'Arc de Triomphe. C'était absolument choquant pour tous les Français, je crois, ou quasiment tous les Français. On est à un stade où je comprends des sources que j'ai eues aujourd'hui qui ont été sur le terrain. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait beaucoup d'individus qui n'avaient pas de gilets jaunes, qui étaient par petites escouades groupées et qui ont cherché en fait le combat et le désordre et l'affrontement avec les forces de l'ordre. On n'est plus du tout au début des gilets jaunes où il y avait plus de 200 000 personnes dans la rue, où on était sur un mouvement populaire réel qui avait des revendications légitimes. Là, on est vraiment dans un... Enfin, gérer les quelques personnes... Il y a un nombre extrêmement faible de personnes qui manifestent aujourd'hui. C'est devenu très peu de monde.
Bah,
et la réalité, c'est que...
Il y a de quoi hésiter.
C'est devenu, mais comme d'ailleurs sur la marche, comme le climat, c'est devenu des occasions, finalement, où des gens comme ceux qu'on a vus à l'image vont manifester, et c'est leur droit. Le problème, c'est qu'il y a des black blocs qui vont au milieu de ces groupes et qui sèment complètement le désordre. Donc, on a un sujet qui est considérable.
Attendez, 150 Black Blocs, d'après les éléments.
Il faut très peu de gens pour mettre la pagaille, c'est vrai. Ça a toujours été vrai. Mais c'est très peu de gens et donc il n'y a peut-être pas besoin d'autant de milliers de policiers parce que ce qui est vrai, c'est qu'on hésite désormais à aller manifester d'abord parce que c'est ça, contrôle d'identité, contrôle de tout. Ils ouvrent les sacs pour n'importe qui passe. Moi, j'ai vu des gens, c'était évident qu'ils étaient tous quatre pacifiques, ils avaient un gilet jaune, donc on les contrôle. Mais c'est... Ça n'a jamais existé, ça, en France. Le droit de manifester, ça existe, quoi. Il y a une disproportion, je trouve, entre les moyens déployés qui sont vraiment faits pour décourager les gens d'exercer un droit qui est un droit de base.
Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, est-ce qu'on veut décourager les manifestants ?
Non, je pense pas. Enfin, bien sûr. En tout cas, puisqu'on leur a refusé leur trajet de manifester à certains endroits, etc.
Donc plusieurs périmètres bloqués.
On a peur des yeux arrachés, des mains arrachées. Tout ça, c'est pas que maintenant on réfléchit à
y aller. Effectivement, c'est devenu un rapport de force qui est terrifiant. Mais donc, est-ce qu'on veut décourager les manifestants? Je dirais, ça dépend lesquels. Le problème, c'est que les droits, ça s'exerce pas en disant attendez, ça dépend desquels. Bon, alors donc c'est effectivement une question, mais quand on se retrouve, par contre. Face aux black box, c'est aussi assez compliqué. Là, la marche pour le climat, en l'occurrence, elle a été complètement perturbée, dévoyée par la violence qui s'est exercée et la casse, quoi. Donc bien sûr, il y a une discussion sur les forces de l'ordre, sur comment on organise pacifiquement, comment on crée pas une relation où ça serait un face-à-face entre les forces de l'ordre et les manifestants, mais quand on a aussi en face des gens qui veulent vraiment en découdre...
Rien
de
Mancini,
ceux-là, ils découdront de toute façon, hein, je veux dire. Là,
quand le gouvernement n'a peut-être pas le choix. Il est obligé de mettre autant de forces de l'ordre. Au début du mouvement des Gilets jaunes, il n'y en avait pas autant. Et on a vu ces images désastreuses, notamment les images du 1er décembre. Et à ce moment-là, on a reproché au gouvernement de ne pas assez encadrer ces manifestations, de ne pas assez mettre de forces de l'ordre.
Aujourd'hui,
s'il n'y avait pas eu autant de forces de l'ordre, on aurait reproché au gouvernement de ne pas avoir mis assez de forces de l'ordre.
C'est encore une autre question. Ça, je suis d'accord avec vous. Quoi qu'il fasse, on va le reprocher. Mais ça fait quand même, c'est quand même très impressionnant de voir à quel point on parle. J'ai l'impression qu'on parle davantage des graffitis sur l'Arc de Triomphe ou du Fouquet's que des mains arrachées, des yeux crevés, etc.
On est d'accord
quand
que
on
ces
parle
violences
de,
sont
quand
complètement
occultées
de messages de fond.
Qu'il n'y a pas eu de dommages irréparables. Si, il y en a eu. Moi, j'ai fait beaucoup de manifs dans ma vie, franchement. Les gaz lacrymaux, avant, étaient nettement moins violents, d'après ce que j'ai pu voir. C'est ma seule expérience.
Mais les manifestants étaient moins violents aussi.
Absolument.
Mais il y a toujours eu des casseurs en fin de manif. Toujours. Il y en a toujours eu.
On parle de Paris et des Champs-Élysées. Il y a aussi des villes comme Nantes qui sont perturbées depuis des mois. Enfin, je pense que c'est...
Perturbées.
Isabelle Alonso, quelqu'un qui finit un propos tout de même. Isabelle Alonso, reprend.
Oui, je voulais juste dire que ce sont des gens qui sont en train d'exprimer... On parlait de la colère tout à l'heure. Ils sont en train d'exprimer une colère. Cette colère me semble, à moi, très largement justifiée. Et on a une certaine tendance à ne voir la violence que dans ses formes particulièrement évidentes. C'est vrai qu'un mec qui met un coup de pied dans une vitrine, ouais, c'est violent. Mais la violence sociale de tous les jours, celle que les gens souffrent tous les jours depuis maintenant des années, elle finit par exploser comme elle est en train d'exploser en ce moment. Mais c'est pas pour rien, les gens sont pas des irresponsables. Il y a des raisons à ça. Et je trouve que l'oreille qu'on leur prête, elle est pas coordonnée à ce qui se passe, quoi. On devrait pas seulement réagir quand il y a des violences comme ça explosives, mais à la violence de tous les jours.
Les raisons de la colère et la convergence des luttes que souhaitent un certain nombre de manifestants, le débat se poursuit 20h10 sur France Info, le rappel de l'information avec vous, Olivia Cohen.
150 000 marcheurs pour le climat en France, c'est ce qu'annonce Greenpeace, dont 38 000 à Paris. Le cabinet de comptage Occurrence en recense pour France Info seulement 15 000. Le cortège infiltré par des gilets jaunes radicaux et des black blocs. Des incidents signalés, une banque vandalisée et une centaine d'interpellations. En parallèle, selon la préfecture de police, la manifestation organisée par Force Ouvrière contre la réforme des retraites a rassemblé 6 000 participants à Paris. Les organisateurs en revendiquent 15 000. L'Académie nationale de médecine émet des réserves sur l'ouverture de la PMA, procréation médicalement assistée, aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. L'institution estime que la conception délibérée d'un enfant privé de père n'est pas sans risque pour son développement psychologique. C'est ce qu'on peut lire dans un rapport publié ce soir. Ben Ali, enterré cet après-midi en Arabie Saoudite, l'ancien dictateur tunisien y résidait depuis son éviction du pouvoir il y a 8 ans. C'était le début du printemps arabe. Ben Ali est mort avant-hier à 83 ans. Wesley Fofana forfait au mondial de rugby au Japon. Le centre du 15 de France blessé à la cuisse. Il est remplacé par Pierre-Louis Barassi, appelé pour la première fois en bleu. La France l'a emporté de justesse face à l'Argentine ce matin 23 à 21.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Neila Latrousse.
Olivia Cohen évoquait la centaine d'interpellations en marge des manifestations aujourd'hui. Oriane Mancini de Public Sénat, est-ce que le samedi, c'est un rendez-vous désormais que les autorités craignent par avance?
Ben oui, forcément. Forcément, ça fait maintenant presque un an que tous les samedis, il y a des manifestations qui sont de plus en plus violentes. C'est vrai qu'on a eu deux étapes un petit peu dans ce mouvement des Gilets jaunes. Les premiers mois où on avait plus des revendications sur le fond, des Français qui venaient vraiment exprimer une colère, un sentiment d'oubli, un sentiment de relégation et qui voulaient se faire entendre. Et plus les samedis passent et plus les violences ont pris le dessus. Et aujourd'hui, on le voit, après une pause pendant l'été où le mouvement des Gilets jaunes s'est affaibli, aujourd'hui, on voit que ça repart et que les violences repartent.
Le 17 novembre, ce sera d'ailleurs le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Isabelle Alonso, est-ce qu'il faut s'attendre à une convergence des luttes à laquelle appellent un certain nombre de mouvements pour cet anniversaire?
Ça me fait sourire parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai entendu ça, qu'on annonce une nuit des barricades comme en 68. Or, une nuit des barricades, c'est par définition le truc qui ne se décrète pas. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Mais en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ouais, alors cette nuit, on va faire une nuit des barricades ». Non.
C'est un peu de la com', les appels qu'on a sur Internet.
Ben, tout le monde. C'est-à-dire, on interprète comme ça le vœu pieux, hein. C'est le désir que ça arrive comme ça. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup sur la manière dont on parle de ces manifs et de la violence. C'est que, au départ, dans les Gilets jaunes, et il y a énormément de femmes qui, elles, ne cassent pas. Et ces femmes-là, elles sont là, elles sont pas pour rien. Et elles y sont toujours. Et c'est à ça que le gouvernement devrait faire attention, parce que ces femmes-là ne vont pas renoncer. Une fois qu'elles descendent dans la rue, les femmes, c'est pour aller au bout du truc. Donc ça sera peut-être pas avec des barricades, ça sera peut-être pas en cassant des vitrines avec les pieds, parce que ça, vous avez vu que c'est quand même une occupation très masculine, hein. C'est pas un truc qu'on voit et très jeune. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont des mères de famille, qui n'y arrivent pas, qui vivent dans des conditions extraordinairement difficiles, qui se battent tous les jours de leur vie, et elles sont là, elles sont dans la rue. Et alors, ça m'amuse assez, parce que toutes les semaines, j'écoute les médias, et j'entends toujours dire, il y a de moins en moins, il y en a encore un peu moins que la semaine dernière, mais s'il y en avait moins toutes les semaines, il n'y en aurait plus, là. Eh ben, il y en a encore, et il est probable que là, ça va reprendre, parce que les vacances et tout, évidemment, c'est pas les meilleures conditions pour la mobilisation, mais...
Mais il y avait quand même une autre partie dans la manifestation d'aujourd'hui, qui est la marche pour le climat. Oui. Parce qu'en fait, à chaque fois, on parle de convergence des luttes. Moi, je dirais, il y a plutôt cacophonie des luttes, parce qu'elles ne convergent pas du tout. Cacophonie. Et donc, d'ailleurs, il y a eu plusieurs samedis où ça s'est chevauché, des marches pour le climat, ou des marches pour les femmes, et les gilets jaunes. En l'occurrence, là, la marche était la marche pour le climat, essentiellement. Et c'est intéressant de se pencher aussi dessus, parce que comme on est fasciné, bon, le gilet jaune, ça a été un grand mouvement social, ça continue,
ça l'est toujours,
et il y a de la violence qui nous fascine et qui nous tétanise et qui nous aveugle aussi sur ce que ça dit, mais la marche pour le climat, ça dit aussi beaucoup. Et quelque part, il y a un truc très intéressant, parce qu'il y a aussi une forme de radicalité qui n'est pas du tout la même, mais qui est c'est l'urgence de la situation, et là, avec en plus une approche générationnelle, c'est les jeunes, et il y a vraiment un clivage que moi je note de plus en plus. On a une école de journalisme avec essentiellement des jeunes, mais que je note de plus en plus entre nos générations qui étaient dans une pensée de la réforme, ça va le faire, on va faire une transition énergétique, etc. Et l'urgence de la jeunesse qui se dit, mais en fait, est-ce qu'on sera encore vivant? Et donc, dans la façon de penser les choses, c'est pas forcément de la radicalité violente en termes de casser des vitrines, mais dans la manière de penser, c'est très radical.
Et la radicalité étymologique, oui, à la racine.
Et aujourd'hui, ça se traduit de deux façons, avec ce genre de flash mob, en fait, quelque part, où on arrive à réunir beaucoup de monde, 250 000 personnes à New York, quand même, de flash mob, et d'un autre côté, des comportements de consommation. Je citerai Yuka par exemple, qui est l'appli où en fait on décide ce qu'on fait et on commence à boycotter certains produits. Alors c'est pas de la politique, il y a de la flash mob et de l'action consommation, c'est pas des formes politiques qu'on connaissait, mais c'est aussi une forme de radicalité.
C'est pas de la politique classique, mais voilà. C'est de la politique. Exactement. Au sens premier du terme, hein, je dirais.
La radicalité et le climat social explosif en cette rentrée, ce que semble regretter Ingrid Levavasseur. Elle était invitée ce matin du 8h30 sur France Info et elle portait jusque peu encore la chasuble jaune, c'était une des gilets jaunes.
Il y a eu ce fameux grand débat dont on va pas revenir à chaque fois dessus, mais il y a eu un changement, il y a eu des choses qui ont été tentées. Mais malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup n'entendent pas et ne voient plus et n'ont plus envie de voir parce qu'ils sont tellement déçus que la défiance a fait que grandir et la défiance se voit par rapport à tout le monde, mais du plus petit élu jusqu'au gouvernement. Et on sent bien que peu importe ce que fera le gouvernement, il y aura toujours cette défiance et de toute façon le manque d'envie de voir ce qui s'y passe.
Auriane Mancini de Public Sénat, cette défiance, elle est née avec Emmanuel Macron ou il en hérite au fond?
Non, il en hérite. La défiance, elle est bien plus ancienne que le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. La défiance envers les politiques, elle remonte à des années. Ce manque de confiance et puis surtout ce sentiment d'une France que j'aime pas appeler périphérique, mais d'une France qui se sent oubliée, de ces territoires qui se sentent oubliés. Et c'est de là que vient la défiance. Et on peut pas reprocher, ou en tout cas on peut pas imputer à Emmanuel Macron la responsabilité de cette défiance envers les politiques.
Guillaume Labbé, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Personne n'en profite, hein, cette défiance, ni par parti politique, ni syndicat, personne ne tient les marrons du feu.
Oui, c'est là où c'est très différent, hein, le mouvement climatique, ce mouvement générationnel est un vrai mouvement qui a un sens politique et une transformation politique d'un nouveau style. Il y a des boycotts, il y a des rassemblements. Les Gilets jaunes, le fait est, et le problème d'ailleurs, c'est que ça devient un mouvement qui est nihiliste, puisqu'il a eu une transformation politique dans le sens où le gouvernement a reculé, a levé cette taxe. Il y a eu quand même cet acte 2 qui est, on va voir ce que ça donne et si c'est juste
et
de la com ou non.
Proximité d'Emmanuel Macron.
Mais c'est ça, mais il y a aujourd'hui pas de transformation politique de la part des Gilets jaunes. Il y a eu Francis Lalanne, bon, je commente même pas ça. Donc ça a complètement échoué. Et voir, tirer sur cette pauvre Ingrid Levavasseur qui avait l'air d'être un leader tout à fait qui aurait pu tout à fait tenir la route. Donc ça ne fonctionne pas.
Il n'y a pas de revendication commune à tous ces gilets jaunes.
Et c'est là où on voit qu'il y a une forme de nihilisme. Ce sera intéressant quand même. Donc le fait est que Emmanuel Macron a peut-être attisé ce parisianisme et cette espèce d'élitisme triomphant qui se voit beaucoup, c'est certain. Il y a eu aussi, je pense, une erreur au départ, au tout début, sur l'aspect sécuritaire de la gestion de cette manifestation. Emmanuel Macron et Christophe Castaner ont dit au début, il est hors de question qu'il y ait des manifestations aux Champs-Élysées, et c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu, pour le coup, être très ferme sur la répression du mouvement pour empêcher ça. Le fait est que les actions violentes et l'Arc de Triomphe ont quand même donné un recul de la loi, et des gens vont vous dire aussi que les violences ont permis d'avoir un acte 2 du quinquennat.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, il a été aussi élu sur ce mouvement-là, c'est-à-dire c'était sur un mouvement de rejet des élites traditionnelles, des gens en place, et donc il a incarné à un moment donné justement du renouveau, on va faire autrement, ça sera plus ni gauche ni droite, donc il était aussi dans ce mouvement-là. Ce qui a manqué, c'est le social. Là, aujourd'hui, il y a un boulevard, mais un boulevard, une nécessité, et un boulevard politique sur le social. C'est-à-dire que dans le projet Macron, il y avait changé, et il y avait le social. Alors, il a entrepris des réformes, ça valait de larmes, il a entrepris des réformes, mais le social, aujourd'hui, il y a un immense besoin de social, et s'il avait accédé à ce besoin-là, la situation
compris,
serait...
Voilà. Je suis pas sûre qu'il ait compris, parce que moi, ce qui me paraît assez frappant, c'est qu'il faut remonter un certain nombre d'années en arrière, mais il y a des gens qui votent depuis des dizaines d'années, et la politique qui s'ensuit ne correspond jamais à ce que eux attendaient, à leurs attentes. Évidemment, quand c'est la droite, évidemment, mais quand c'est la gauche non plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de déception à la base. Les gens sont déçus par la politique telle qu'elle se joue, le gauche-droite, avec toutes les guillemets que vous voulez. Et donc, il arrive un moment, ils n'ont l'impression d'avoir obtenu quelque chose, jamais, en
mais
fait.
Mais sur le virage social,
donc,
Isabelle
avec Macron, ou... avec Macron, il y a peut-être des gens qui y ont cru au départ. Moi,
et le virage social, vous y croyez, vous? Un acte 2, plus social, plus de redistribution?
J'y crois pas du tout. Je crois qu'il va faire de la communication là-dessus, parce que c'est devenu très nécessaire, absolument. Mais je crois pas du tout que ça soit dans ses intentions. C'est peut-être pour ça que les gens ont voté pour lui, parce qu'ils ont cru que c'est ça, mais c'est pas cette intention qu'il a.
Mais c'est un peu le pari de Xavier Bertrand. Moi, je dirais aujourd'hui qu'avance, en fait, sur une droite sociale, avec un discours très social sur les retraites, la casse, etc., parce qu'il y a un vrai besoin, et en plus, ça fait partie du modèle économique français.
Voilà. Rappelez-vous du discours de Chirac et des pommes et tout ça. Ils ont déjà fait le discours. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est les actes.
20h20 sur France Info, l'info avec Olivia Cohen, et on poursuit le débat juste après. Bonsoir, Olivia.
Bonsoir à toutes et à tous. 120 personnes placées en garde à vue à Paris en marge de la 45e journée d'action des Gilets jaunes. Dernier bilan du parquet il y a une vingtaine de minutes. Au total, 163 interpellations à Paris. Il y avait des rassemblements aussi en région. 1500 Gilets jaunes recensés à Toulouse. C'est la plus importante mobilisation depuis l'été. Et pour le climat, 150 000 Français ont marché aujourd'hui. Selon Greenpeace, c'est l'un des organisateurs. L'association parle de 38 000 participants dans la capitale. Le cabinet de comptage mandaté par France Info en dénombre seulement 15 000. Un capitaine de police également a été placé en garde à vue en marge de cette marche. Pour outrage et rébellion, il n'était pas en service. Des incidents signalés, une banque vandalisée dans le 5e arrondissement de Paris. Un adolescent poignardé à mort à Marseille lors d'une rixe, son agresseur est en fuite. Un autre mineur légèrement blessé au dos est à l'hôpital. L'Académie nationale de médecine émet des doutes sur la PMA rendue accessible aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. L'institution estime, je cite, que la conception délibérée d'un enfant privé de père n'est pas sans risque pour son développement psychologique et son épanouissement. C'est ce qu'on peut lire dans un avis publié ce soir. La suite de la 6e journée de Ligue 1 de football, une fin de match houleuse à Marseille. 3 expulsions, dont 2 côté marseillais, Camara et Payet. En ce moment, Bordeaux-Brest, Metz, Amiens, Nice, Dijon, Nîmes-Toulouse et Reims-Monaco.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Un réformisme social pour l'acte 2 du quinquennat. Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker. Emmanuel Macron souhaite redonner d'une façon une barre à gauche, mais il y a du monde sur le créneau. Vous évoquiez Xavier Bertrand.
Oui, parce que j'ai l'impression qu'en fait, à droite aussi, on va redonner une petite barre à gauche. Parce que aujourd'hui, en fait, il y a un boulevard pour une politique sociale qui ne serait ni de gauche ni de droite. et qui
je qui pense était la que promesse d'Emmanuel Macron exactement, non réalisée du coup.
Exactement, et même s'il a été élu avec finalement assez peu de voix dans les conditions qu'on connaît, c'était la promesse, et c'est la promesse qui correspond à la politique française. Ça veut dire aujourd'hui, mettons, comment réconcilier les questions climatiques avec les questions sociales? Il y a des besoins de transition, de redistribution, et la réalité c'est qu'en plus cette redistribution elle se fait, mais elle se fait par à-coup, elle se fait avec des chèques à un moment donné qu'on lâche, elle se fait avec même Bruno Le Maire qui va quand une entreprise va fermer en disant je vais sauver tous vos emplois, comme faisait Montebourg. Donc elle se fait par à-coup, au lieu de à un moment donné lâcher dans des conflits des gestes qui viennent trop tard. Il va y avoir une nécessité d'organiser la politique sociale, parce que le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui, on va le voir avec les retraites, on va le voir avec les petits salaires, en fait c'est un modèle de fragilisation et les gens souffrent, c'est intenable.
Guillaume Labbé, est-ce que, comme le dit Cécilia Gabizon, il y a un manque d'anticipation des enjeux à venir, que ce soit de la part d'Emmanuel Macron ou de cette droite qui donnerait un coup de barre à gauche, hein, si j'ai bien compris?
Le problème, c'est que personne n'a vraiment travaillé et personne n'a vraiment réfléchi à qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'améliore. On a des tenants d'un ancien système, c'est plus ou moins tous des énarques, ils ont
Vous
jamais
mettez Emmanuel
voulu...
Macron dedans?
Oui, bien sûr, bah, oui, en bien dedans. Non, non, ils ont, la réalité, c'est que c'est des gens qui sont formés.
Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils travaillent. Ils sont... alors ils font
non, mais ils travaillent, mais ils n'ont pas réfléchi à l'avenir du pays. Il y a un grand nombre de pays qui ont complètement radicalement changé leur modèle. Nous, on bute sur la réforme de l'État. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à quoi sert un ministère des sports alors que c'est les fédérations sportives qui organisent des événements? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de politique publique plus efficace, par exemple, pour la transition énergétique? La réalité, c'est qu'il y a des acteurs dans le solaire, par exemple, dans le monde entier, que Emmanuel Macron a annoncé des objectifs très élevés, que les industriels du solaire savent qu'ils ne sont absolument pas capables aujourd'hui, pour des raisons administratives, de faire plus de solaire. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a aussi des forces pour le nucléaire et que les technocrates qui nous gouvernent vont plutôt écouter les gens du nucléaire plutôt que les gens du solaire. Donc la réalité, c'est que si on ne change pas radicalement le pays et la façon de faire de la politique et qu'on ne transforme pas en réorganisant l'État, et à des moments, il faudra fermer certainement certains ministères, on n'aura pas de vraie solution. Si on fait toujours pareil, qu'on reconduit les mêmes budgets avec le même nombre de fonctionnaires, ce sera pareil.
Tiens, puisque vous évoquez le budget, justement.
Fortement.
Auriane Mancini, de Public Sénat, vous qui suivez les débats entre majorité, opposition, grosso modo, l'exercice budgétaire à venir, il va être impossible à boucler.
Oui, il va être impossible parce que forcément, évidemment, droite et gauche n'ont pas les mêmes demandes. Vous parliez du social. Alors, le budget annoncé, en tout cas tel qu'annoncé par Gérald Darmanin qui en a dévoilé les premières pistes, c'est un budget de baisse d'impôts. Un budget de baisse d'impôts inédit sous la Ve République, dit-il. Donc ça, forcément, ça va faire plaisir à une partie des Français. Mais de l'autre côté, vous avez la droite qui va demander une réduction des déficits, qui va demander des économies et qui dit qu'on ne peut pas laisser un déficit actuel, qu'on ne peut pas laisser une dette actuelle. Et forcément, ça fait une équation compliquée pour le gouvernement.
Isabelle Alonso, comment est-ce qu'on fait du social quand on a de la dette?
Mais moi, tout ce discours qu'on entend depuis des années, ça fait 40 ans qu'on tient le même discours, hein, faut dépenser moins, attention à la dette, etc. C'est un discours qui ne vaut que par sa propre répétition, il s'auto-alimente. Et on change pas de politique, on parle, et finalement, on n'en fait pas du social, comme on dit. La redistribution.
Si, on en fait beaucoup en France.
On dirait, comment?
On en fait beaucoup en France. On en fait énormément.
On a hérité de beaucoup, on en a fait beaucoup, et toute la dynamique consiste à dire qu'on en fait encore trop. Et toute la théorie, tout ce qu'on appelle les réformes nécessaires consiste à baisser le coût du travail. Et pour baisser le coût du travail, on a des gens qui sont déjà là et on va leur dire « vous coûtez encore trop cher ». Tant qu'on continuera à comparer le coût du travail dans des pays comme les nôtres avec les pays comme la Chine ou ailleurs où les gens n'ont ni retraite, ni sécu, ni rien du tout. Donc évidemment, ça coûte beaucoup, infiniment moins cher, mais on peut pas tenir la comparaison. Et tant qu'on fera comme ça pour faire culpabiliser des gens qui n'y arrivent déjà pas et leur expliquer qu'ils coûtent trop cher, j'ai vu l'autre jour que les retraités coûtent trop cher, mais les retraités sont des gens qui ont cotisé toute leur vie et qui ont travaillé. Il y aurait peut-être une manière de voir les choses un peu différemment et d'arrêter d'invoquer sans arrêt.
Le gouvernement vous répondrait qu'il a baissé les cotisations pour les travailleurs, que ça se voient sur leur fiche de paye et que donc ils ont pris aussi des mesures pour les travailleurs.
Mais baisser les cotisations, ça veut dire baisser les prestations qui vont suivre après. On a l'impression que c'est que les cotisations sont une espèce de dépense folklorique, mais ça sert à alimenter ce qu'on va récupérer plus tard, aussi bien pour la maladie que pour la retraite.
Et Cécilia Gabizon sourit de la School Media Maker.
Oui, mais c'est vrai que c'est une discussion intéressante. Le social, en fait, c'est tout. Mais donc là-dedans, c'est des priorités. Il y a eu une enquête très intéressante menée par Alexis Spire sur la perception de l'impôt par les des Français et la perception de l'État. On leur posait la question, je vous le fais court, est-ce que vous recevez des aides de l'État? En général, ils disaient non, même si en fait, ils en touchaient plein. La seule perception qu'ils avaient de l'action réelle de l'État était la protection sociale. Donc en fait, il y a probablement des façons de recentrer la mission de l'État sur l'éducation, la santé, la protection sociale, qui sont en fait les missions perçues par les gens et les missions pour lesquelles ils sont OK pour payer car ils en perçoivent les effets.
La réalité.
Voilà.
Emmanuel Macron, qui, dans une interview à l'hebdomadaire Le Time, définit ce moment particulier comme la Death Valley, ce moment où les réformes sont engagées, les résultats peinent à venir. On y revient à 20h33, juste après l'information. Et avant cela, la météo sur France Info, il est 20h27.
Votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelle main ? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Jusqu'au 30 novembre, si votre BMW a plus de 6 ans, bénéficiez de 30% de remise minimum sur les principales opérations d'entretien et de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. BMW Service. Votre BMW est entre de bonnes mains. Offre valable dans le réseau BMW participant. Conditions sur bmw.fr.
Nous sommes un lien.
Un lien entre les gens.
Un lien de confiance et de solidarité.
Qui permet à tous de veiller sur chacun.
Nous sommes aussi un lien qui va plus loin.
Une nouvelle mutuelle dont le rôle n'est pas seulement de rembourser vos frais de santé.
Mais aussi et surtout de vous aider à vivre mieux.
Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble.
Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle.
Qui se construit pour et avec vous.
Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, numéro Oria 16006968. Plus d'informations sur aesio.fr.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
20h29, les prévisions météo avec Météo France et vous, Jean-Michel Golinski.
La zone de mauvais temps qui circule sur l'arc méditerranéen va persister jusque demain soir inclus, avec actuellement des moments un peu plus calmes, mais toujours par intermittence, des averses orageuses soutenues sur le littoral qui auront tendance à persister ce soir et la nuit prochaine. Et demain, le quart sud-est sera à nouveau copieusement arrosé. Un dimanche d'ailleurs globalement humide sur les autres régions, avec dans un premier temps des pluies traversant le pays d'ouest en est, se mêlant parfois d'orages en arrivant en cours d'après-midi sur les régions les plus à l'est. À l'arrière, en cours d'après-midi, un ciel variable va s'installer par l'océan, poussé par un vent d'ouest assez turbulent, dans des températures qui vont s'orienter partout à la baisse, une baisse qui sera assez sensible sur les régions les plus à l'ouest.
h 30 sur France Info, toute l'information avec vous, Olivia Ferrandi.
Bonsoir. Le rejet de la réforme des retraites a rassemblé 6 000 manifestants aujourd'hui à Paris, selon la préfecture. 15 000 corrige le syndicat Force Ouvrière. Quant à la marche pour le climat, elle a mobilisé entre 15 000 et 38 000 citoyens, selon les sources. Une marche qui a dégénéré en raison de la présence de 150 Black Blocs et de Gilets jaunes, qualifiés de radicaux par les forces de l'ordre. Des débordements ont eu lieu dans le quartier latin, dans le 13e arrondissement. A signalé des dégâts pour plusieurs commerces et pour une banque. Une centaine d'individus ont été placés en garde à vue. Pour la porte-parole de la préfecture de police de Paris, Laetitia Vallard, les 7500 gendarmes et policiers mobilisés dans la capitale aujourd'hui ont rempli leur mission.
Dès ce matin, nous avons eu affaire à des actions spontanées, c'est-à-dire non déclarées, pour lesquelles nous sommes intervenus rapidement pour disperser les regroupements qui n'avaient pas été autorisés et que nous avons eu à gérer différents événements cet après-midi. Une manifestation syndicale et une manifestation pour le climat qui a été infiltrée par des éléments radicaux et des black blocs et pour lesquels nous sommes également intervenus de manière très rapide pour mettre fin aux tentatives d'exaction qui ont été commises par des individus qui étaient là pour s'en prendre au commerce et aux forces de l'ordre.
À noter également qu'un capitaine de police a été placé en garde à vue ce soir pour outrage et rébellion et puis quelques centaines de manifestants défilent encore actuellement dans le 12e arrondissement. Dans l'actualité également, la crise des services d'urgence en France, la réponse d'un président de région, Jean Rottner, qui dirige la région Grand Est depuis 2017, décide de reprendre sa blouse d'urgentiste pour aider l'hôpital de Mulhouse. Il était chef de service dans cet établissement jusqu'en 2010.
service. À partir d'octobre, il ira prêter main forte aux praticiens. De son côté, l'Académie de médecine émet ce soir des réserves sur la future loi bioéthique qui prévoit l'ouverture de les PMA à toutes les femmes en France. La conception délibérée d'un enfant privé de père n'est pas sans risque pour son développement psychologique et son épanouissement, estiment les praticiens. Les députés vont examiner le projet de loi bioéthique la semaine prochaine à l'Assemblée. À l'étranger, toujours plus vite, toujours plus loin, au détriment de l'homme et de l'environnement, stop à la 5G, slogan entendu à Berne en Suisse aujourd'hui au cœur d'une manifestation contre le développement de cette technologie des réseaux de téléphones portables. Selon ces milliers de manifestants, il y aurait des rayonnements électromagnétiques. Plusieurs cantons ont déjà bloqué la construction d'antennes. Et puis le sport, le football, le match nul un partout entre Marseille et Montpellier en Ligue 1. Actuellement, il y a un partout entre Bordeaux et Brest, un partout également entre Nice et Dijon. Pas d'ouverture de score sur les autres terrains. Et puis je vous rappelle la victoire du 15 de France de rugby contre l'Argentine aujourd'hui 23-21 pour le premier match des Bleus dans le Mondial au Japon. 20h33, Leïla Latrousse pour les informer.
20h, 21h, les informer. Leïla Latrousse.
Avec Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, Oriane Mancini, journaliste politique à Public Sénat et présentatrice de Bonjour chez vous, Guillaume Labbé, fondateur de l'agence Comstrat et maître de conférences à Sciences Po Paris, et Isabelle Alonso, féministe, romancière, chroniqueuse à Ciné Mensuel et Ciné Madame, et à la télévision sur France 2, Je t'aime, etc. avec Daphné Burki. Emmanuel Macron, tiens, dans la Death Valley, pas littéralement la vallée de la mort en Californie, mais c'est l'image qu'utilise le chef de l'État donc pour évoquer ce moment particulier de son quinquennat entre réformes engagées et résultats à venir. Guillaume Labbé, vous qui dispensez des conseils en communication, est-ce que c'est la bonne image, la Death Valley?
Je pense que c'est la bonne image. Moi, si j'étais lui, je l'aurais pas dit, mais c'est pourquoi assez vrai. Pourquoi? Parce que c'est toujours dangereux. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que les politiques faisaient des erreurs quand ils dévoilaient leur stratégie. C'est un truc, le magicien ne va pas commencer son spectacle en disant « Bon, écoutez, là, j'ai fait comme ça, comme ça. Et là, vous avez rien vu. Et là, vous êtes étonné. » Donc, je crois que c'est une erreur de le faire. Après, c'est tout à fait vrai. Et Emmanuel Macron, là-dessus, est un très bon stratège. Il y a aucun doute là-dessus. C'est vrai, puisque ce dont il parle, c'est le fait que maintenant il est connu des Français, il a eu le temps de se mettre au boulot et il n'y a plus aucune excuse qui lui sera accordée, si tant est que ce soit possible qu'un président de la République soit excusé dans un pays comme la France. Et donc, il va falloir maintenant qu'il ait des résultats. Il a demandé des efforts aux Français, il y a eu aussi des problèmes d'incompréhension. Donc, il reste 3 ans où il n'a pas le droit, s'il veut réussir, de ne rien faire et de juste gérer les élections.
Mais c'est un peu... Déjà, c'est à destination des Américains. C'est dans le Time et il réussit sa communication internationale et marche super bien. Le dossier entier est une sorte de panégyrique. De la même manière qu'il réussit super bien sa communication internationale en leader environnemental, Make the Planet Great Again. Donc il s'est trouvé des images qui marchent pour le monde anglo-saxon. Donc la vallée de la mort, ça marche. Et en plus, c'est un peu l'image de l'homme seul. Il est seul, c'est dur, c'est la pénitence. Mais à la fin de la vallée de la mort, c'est justement le moment où ça va se réaliser. Donc il est plutôt sur des images en fait presque religieuses. Il est sur des images presque religieuses et en fait de l'homme qui lutte seul et qui va surmonter les difficultés. Et je pense que ça marche extrêmement bien sur un public anglo-saxon.
Sur le climat, Cécilia Gabizon, vous évoquiez le Make the Planet Great Again, cette image de champion de l'écologie. Pourtant, dans la marche sur le climat, le reproche qui est revenu, c'est l'écart entre le discours et l'action. On a vu des pancartes notamment qui disaient le plus grand pollueur. Et c'est un discours que l'on entend aussi beaucoup dans la bouche des ONG, pardon. Clémence Dubois de 350.org, l'invité tout à l'heure de Camille Revel, écoutez.
Il y a beaucoup de mots, puisque Emmanuel Macron très régulièrement reprend les éléments de langage et son gouvernement qui sont dits par les environnementalistes, les écologistes. Et pourtant, dès qu'il y a une opportunité politique de prendre des mesures concrètes, systématiquement, l'occasion est manquée.
Isabelle Alonso, une réaction?
Moi, je trouve que le terme « vallée de la mort », c'est un extraordinairement négatif que jamais. Ça parle plutôt de son inconscient et de sa manière dont lui se voit que d'un message politique. La vallée de la mort, en plus, quand on traverse la vallée de la mort, on arrive à Las Vegas. C'est une très mauvaise image aussi, l'économie casino. Quoi. Comment peut-il en arriver à utiliser ce mot-là? Peut-être parce qu'il avait bien chopé comment ça se prononce en anglais et que donc ça faisait joli, j'en sais rien. Mais c'est catastrophique d'un point de vue politique de dire « Ah oui, là, on va traverser la vallée de la mort, mais après, ça ira mieux ». Il y a des endroits, évidemment, quand on en sort, ça ne peut aller que mieux. Mais c'est tout un programme. Et ensuite, c'est vrai que souvent, ils annoncent des choses et puis ils font exactement le contraire.
Sur l'écologie, notamment.
Donc, sur l'écologie, c'est dingue. On entend dire, oui, on va essayer de faire en sorte qu'on n'accentue pas le problème. Et ils remplacent le train qui a rapporté les légumes de Perpignan à Rungis, va être remplacé par 20 000 camions qui pétaradent et qui brûlent du diesel sur l'autoroute. Et ça vient d'être fait cet été, alors que tout le monde leur a dit, ne faites pas ça. Je ne comprends pas.
Auriane Mancini, de Public Sénat, cette obsession écologique aussi de cette rentrée, de cet acte 2, elle est uniquement électorale? Ou alors, il y a une prise de conscience que vous ressentez quand vous côtoyez la majorité dans les couloirs du Sénat?
Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et puis surtout, il y a la... Comment dire, ils ont compris que les Français les attendaient désormais là-dessus et qu'ils n'avaient pas le choix. Ils doivent parler d'écologie, ils doivent agir. Il y a une prise de conscience, surtout chez les Français. Et donc, ils se sentent quelque part obligés. Après, Emmanuel Macron, il ne peut pas tout faire tout seul sur le climat. Le climat, ça se joue à l'échelle internationale. On ne va pas se mentir, ça ne se joue pas à l'échelle franco-française.
Quand même,
C'est compliqué de gérer le climat tout seul à l'échelle franco-française. Il a beau prendre des mesures, Angela Merkel aussi prend des mesures. Elle a annoncé hier un plan de 100 milliards.
Mesure, oui.
Mais quand face à vous, vous avez un Donald Trump qui est président de la première puissance mondiale et qui est climato-sceptique, quand vous avez un président chinois qui construit des centrales à charbon, et comment vous voulez, agir sur le climat au niveau international?
C'est très vrai, Isabelle, ce que vous dites. En revanche, je trouve que pour faire avancer les choses sur ce plan-là, il faut à la fois du courage politique et il faut des idées, des vraies idées. Il faut pas de la com.
Et la France en manque, courage, idées.
Je trouve que la classe politique en général manque et de courage et d'idées. Moi, les projets, ça veut rien dire pour moi. Il me faut des idées. On me nourrit avec des idées. On me balance pas un mot comme un projet, mais c'est rien un projet. Un projet, c'est un truc qu'on jette comme ça, mais... Je veux des idées et je veux des hommes et des femmes qui aient le courage de les défendre. Parce que c'est vrai qu'on se heurte à des tas d'obstacles. C'est vrai que tout le monde est d'accord en principe et qu'après, quand il faut limiter sa propre liberté. Mais quand même, dites-moi des choses qu'ils ont essayé de faire et qu'ils n'ont pas pu parce qu'on les en aurait empêchés. Non.
Labbé de l'agence Comstrat.
Dans le monde de l'entreprise, on appelle ça l'innovation en réalité. Hein. Et les entreprises, si elles n'innovent pas, elles disparaissent quasiment tout le temps. Et c'est ça qui est assez étonnant.
C'est bien à la mode.
Mais il faudrait quand même qu'on s'y mette. Parce que les entreprises savent qu'il faut innover, sinon on disparaît, on perd ses clients. Un État, c'est un peu pareil. Donc, le problème qu'il y a, c'est que oui, ils ont compris. Maintenant, il faut agir, mais il faut pas agir de la même façon. Et c'est pas en mettant de l'argent qu'on résout les problèmes. J'espère qu'on l'a compris dans ce pays. C'est pas en balançant par les fenêtres des milliards qu'on va résoudre les problèmes sociaux. C'est en abordant les sujets différemment.
En l'occurrence.
Les problèmes écologiques, mais les problèmes sociaux également. Et écologiques encore plus, puisqu'on est sur une matière neuve. Et c'est vrai que je crois que ce que les gens attendent, c'est qu'il y a un discours très fort et qu'aujourd'hui, la communication, c'est plus juste parler, c'est avoir
En mettant sans moyens, on fait rien. Hein,
c'est pas sûr. Avec beaucoup de moyens, on peut être très paresseux.
On aurait de la thune derrière, on lutterait bien.
On va parler du patrimoine surtout et de la question des moyens avec le patrimoine. Transition parfaite que vous m'offrez, Isabelle Alonso et Guillaume Labbé. Il est 20h40 sur France Info. Le rappel de l'information, Olivia Cohen.
Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, fait part de sa gratitude aux forces de l'ordre après cette journée de manifestation. 150 000 marcheurs pour le climat en France, c'est ce qu'annonce Greenpeace. 38 000 recensés à Paris. Le cortège a été infiltré par des gilets jaunes radicalisés et des black blocs. Des incidents ont été signalés, une banque vandalisée et 120 interpellation. En parallèle, selon la préfecture de police, la manifestation organisée par Force ouvrière contre la réforme des retraites a rassemblé 6000 participants à Paris. Les organisateurs en revendiquent 15000. L'Académie de médecine émet des réserves sur l'ouverture de la PMA, procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. L'institution estime, je cite, que la conception délibérée d'un enfant privé de père n'est pas sans risque pour son développement psychologique. C'est ce qu'on peut lire dans un avis publié ce soir. Ben Ali, enterré cet après-midi en Arabie Saoudite, l'ancien dictateur tunisien y vivait depuis son éviction du pouvoir il y a 8 ans, c'était le début du printemps arabe. Ben Ali est mort avant-hier à 83 ans. Et puis Wesley Fofana déclare forfait pour la suite du mondial de rugby au Japon. Le centre du 15 de France s'est blessé à la cuisse, il est remplacé par Pierre-Louis Barassi, c'est la première fois qu'il est appelé en bleu.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Et entre les manifestations, le climat, la réforme, les black blocs, les interpellations, Eh bien, la 36e édition des Journées du patrimoine et un premier bilan positif pour le ministre de la Culture, Franck Riester.
Objectivement, partout en France, cette fête populaire est un succès aujourd'hui. Évidemment, à Paris, avec cette manifestation des Gilets jaunes et la prévention qui avait été faite pour essayer de vérifier qu'il n'y avait pas de problème en particulier sur tel ou tel site. Je pense par exemple à l'Arc de Triomphe. Le goût est évidemment un petit peu mitigé, mais globalement, je vois une nouvelle fois un succès important pour ces Journées du patrimoine.
Franck Riester qui sera l'invité de Victor Maté à partir de 21h sur France Info. Guillaume Labbé. Tout à l'heure, je lisais dans le Figaro Stéphane Bern qui expliquait que le patrimoine, ça crée de la convivialité, porte de l'identité heureuse et génère de l'économie. C'est votre définition aussi, je vous pose la question, parce qu'il y a identité heureuse.
Oui,
et je sais que vous avez conseillé un certain candidat à la
primaire. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure idée, c'était pas mon idée, ça, pour être très clair. Je pense que moi, si ça ne donnait qu'à moi, on n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas gardé ça comme axe de campagne.
Mais le patrimoine,
sujet.
Ça crée de la convivialité, de l'identité
mais
heureuse
bien
et
sûr,
génère de l'économie.
Bien sûr, fondamentalement, on parle beaucoup de Paris, en fait, c'est un peu triste, parce qu'on est tous pariso-centrés, mais là, c'est les Journées du patrimoine. Non. Il y a des maires, notamment, des associations qui font vivre les églises, les vieux châteaux, les ruines gallo-romaines, qui sont un scandale absolu parce qu'il y a très peu d'argent de l'État qui est prévu pour s'occuper des ruines gallo-romaines. Donc, il y a toute cette France, en fait, des territoires dont on parle tout le temps. La réalité, c'est que c'est eux qui s'occupent sans argent de leur patrimoine. Et donc, c'est les maires qui font visiter les salles, les endroits. Et donc, oui, c'est un moment très important. Je crois qu'on parlait du mode de vie européen, c'était le sujet la polémique de la semaine à la Commission européenne. La réalité, c'est que la France, c'est son patrimoine et c'est un lien social considérable. On a vu l'émotion de Notre-Dame de Paris, c'était pas que des catholiques qui ont été émus, c'est parce que un pays sans monument, quel qu'il soit, et petit, grand, c'est fondamental. On se rappelle tous de là où on a grandi, des monuments autour.
Aurélien Mancini de Public Sénat, est-ce que, comme le dit Guillaume Labbé, c'est un enjeu d'égalité entre les territoires aussi, le patrimoine?
Oui, c'est un enjeu d'égalité entre les territoires, parce qu'il n'y a pas que Paris. Et la fierté du patrimoine, la fierté de ces monuments, c'est aussi la fierté des territoires. Et il y a de très beaux monuments dans plusieurs villes de France qui sont très visités d'ailleurs. Il n'y a pas que Paris. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'incendie de Notre-Dame de Paris parce que ça a eu un retentissement international et parce que c'est récent. Mais quand il y a eu d'autres incendies, parce que malheureusement il y en a eu en France, comme notamment le Parlement de Bretagne à Rennes ou encore le château de Lunéville, eh ben, ça a suscité aussi, alors évidemment pas un émoi international, mais ça a suscité un émoi national, ça a suscité un émoi bien sûr dans ces régions parce que les Français sont très attachés à leurs monuments.
C'est une passion française et d'ailleurs européenne. Hein,
qu'est-ce que ça dit justement, Isabelle Alonso, c'est ma question, qu'est-ce que ça dit cet attachement 86% des Français attachés au patrimoine culturel selon un sondage BVA de mai dernier.
Ça dit qu'on, je crois qu'on ressent tous comme une richesse incroyable d'être...
C'est pas du passéisme.
C'est pas du tout du passéisme, mais c'est de la conscience du passé dans ce qu'il a de positif, dans ce qu'il nous a laissé. C'est ce qu'ont construit nos ancêtres qui restent. C'est une forme de pérennité. Je connais très peu de monde à qui il est indifférent que nos vieilles pierres. Mais moi, je pleure même quand on vend une gare, même les vieilles gares des petits villages, même. Mais les écoles, enfin, je veux dire, il n'y a pas, et moi qui suis athée, j'adore les églises et ça me fait énormément souffrir quand elles sont détériorées, quand on voit qu'on ne reste respecte pas ce qui, après tout, nous a été légué. C'est notre héritage à tous. C'est un héritage commun.
Il y a un culte de l'histoire en France. Enfin, c'est aussi comme ça que se construit le récit collectif. C'est autour de l'histoire, de la langue et de l'histoire.
Oui.
Donc, de toute façon, on a le... Et puis, en plus, cette histoire est partout sur le territoire. Oui. C'est extrêmement riche. Donc, en fait, tout le monde y a accès.
On parle de la moitié des monuments qui seraient hors Paris.
Exactement. Donc, à Paris, on a effectivement les grands monuments connus, les châteaux de la Loire aussi, etc. Mais il y a des monuments absolument partout. Donc en fait, cette histoire-là, elle est racontée partout, elle est magnifiée, et je pense qu'il y a elle est aussi une richesse économique incroyable pour la France.
Effectivement, tout le tourisme, touristique, et les Français, pardon, n'hésite pas, je voulais le préciser tout de même, à mettre la main à la poche quand il s'agit du patrimoine. 22 millions collectés l'an dernier grâce au loto du patrimoine. Et malgré tout, des associations qui trouvent que c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, à l'instar de Julien Lacaze, qui était invité tout à l'heure de France Info.
Je dirais que le loto du patrimoine, ça devrait être en plus, ça devrait être la cerise sur le gâteau. C'est pas le financement, je dirais, ordinaire du patrimoine. Alors que ça fait 20 millions, 30 millions en plus, qui s'ajoutent à ces 300 millions d'euros. Mais ça reste, en fait, trop faible pour enrayer les besoins. Sachant que, c'est vraiment un domaine dans lequel, si on n'agit pas, l'absence d'action est irréversible. C'est-à-dire que quand le patrimoine est détruit, il est détruit pour toujours. On ne pourra pas le faire l'année d'après. Il faudrait un vrai budget. Les Français sont en droit de dire, moi, je paie des impôts, je veux qu'on donne un peu plus de 3% du budget du ministère de la Culture aux monuments historiques.
Et le ministre de la Culture, dans Le Parisien, qui révèle que 338 millions d'euros seront dédiés l'année prochaine au patrimoine. Je vais me faire un peu l'avocat du diable en France, c'est-à-dire le privé. Hein, le mécénat donne 500 millions d'euros. Est-ce qu'au fond, le privé gère pas mieux ce patrimoine que l'État? Allez, Guillaume Labbé.
En 1962, André Malraux, qui est un autre grand ministre de la Culture avant Franck Riester, avait indiqué, il avait fait voter une loi.
Hommage soudain à Franck Riester sur ce plateau.
J'aime beaucoup Franck Riester. Mais en 1962, André Malraux, qui est un homme de lettres, un homme d'action, qui venait de la gauche et qui était devenu gaulliste par la force de l'histoire, avait en 1962 fait voter une loi qui s'appelle maintenant la loi Malraux, qui a permis de financer avec de la réduction d'impôts extrêmement élevé pour les grandes fortunes, notamment, les centres historiques. Ça a permis de préserver les centres historiques et c'est grâce à ça que la France, contrairement à l'Italie ou d'autres pays comme ça, ont quasiment dans toutes les villes, des centres-villes qui sont en bon état. Enfin, Valenciennes, Bordeaux, enfin, beaucoup de villes que je connais sont quand même transformées grâce à l'argent privé parce que l'État a laissé des impôts, laissé vraiment des fortes baisses d'impôts pour ça.
Enfin, donc l'argent public
la réalité, si non, c'est une logique d'État stratège qui fait des choses intelligentes, mais c'est fondamentalement l'argent du privé. Par ailleurs, là, j'en parlais avec des amis tout à l'heure, quand on regarde les châteaux dans les territoires, en fait, les châteaux en ruine étaient quasiment tout le temps, ceux qui tombent en ruine étaient publics, gérés un peu par la mairie, un peu par l'État, un peu par le ministère, mais se sont écroulés. Les châteaux privés sont visités aujourd'hui.
Il n'y a pas de bataille idéologique, là.
Et les gens acceptent de faire ça. Je pense que le privé est plus efficace.
Les gens qui sont propriétaires d'un château et qui font visiter les châteaux pendant les week-ends, c'est leur propriété.
Bien sûr.
Les gens peuvent en profiter puisqu'ils peuvent visiter. Donc, l'État finance à condition qu'il y ait des visites publiques pendant, je sais pas, 3 ou 4 mois de l'année, je sais pas combien. Mais je trouve que ça, c'est une bonne coopération qui, dans l'intérêt de tout le monde.
Pour autant, il ne faut pas privatiser le patrimoine.
Pas du tout qu'il faut privatiser le patrimoine. Bien sûr que non, c'est notre patrimoine. C'est pas comme si c'était à quelqu'un. C'est à nous, quoi.
Il y a des initiatives qui, en fait, l'exploitation du patrimoine, déléguer la gestion, en fait, de l'exploitation du patrimoine par le privé, a priori, parfois mieux fait. Et puis aussi créer, c'est un peu ce que les Espagnols avaient fait dans les hôtels, dans les lieux particuliers. Là, il va y avoir un hôtel de luxe créé dans le château de Versailles. Donc, en fait, le château
de Versailles. Justement, il évoque, Franck Riester, dans Le Parisien, il dit on pourrait utiliser certains monuments comme des hôtels, des centres de conférences, pourquoi pas des musées.
Mais c'était des hôtels particuliers en Espagne. Hein. On peut rester que deux. Mais c'est une super idée parce que ça a sauvé des tas de châteaux médiévaux où on peut pas vraiment habiter toute l'année. C'est un peu. Mais pour une nuit, ça va.
J'entendais dans les discussions. Je suis pas au cœur des discussions, mais des idées de créer des coworks dans des châteaux.
En français.
C'est ça, des lieux d'espace
de travail,
espace de travail partagé. mais il y a aussi une autre formule qui est intéressante. C'est un peu la formule, et probablement elle se complète, la formule anglaise où en fait, ils ont, j'essaie de me souvenir du nom, mais je crois que ça s'appelle National Trust, quelque chose comme ça, qui en fait gère des bénévoles, et c'est 44 000 bénévoles, qui s'occupent, et notamment pas mal de seniors, qui s'occupent aussi des monuments, des bâtiments reconnus. Et donc ça, c'est aussi intéressant, en fait, puisque les gens ne veulent pas payer plus d'impôts, mais ils veulent plus d'action de l'État, c'est aussi intéressant de pouvoir donner du temps pour la sauvegarde du patrimoine.
Et d'autres pistes de financement du patrimoine dans quelques instants. 20h50 sur France Info, le rappel de l'information, Olivia Cohen.
Une marche pour le climat et une 45e journée d'action pour les Gilets jaunes aujourd'hui en France. À Paris, des incidents signalés, une banque vandalisée dans le 5e arrondissement. Selon le dernier bilan du parquet, 120 interpellations dans la capitale, dont un capitaine de police pour outrage et rébellion. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, signifie ce soir sa gratitude aux forces de l'ordre. Concernant la participation pour la marche du climat, Greenpeace parle de 150 000 personnes sur l'ensemble du territoire, dont 38 000 à Paris. Seulement 15 000 selon le cabinet de comptage consulté par France Info. Cortège envahi par des gilets jaunes radicaux et des black blocs. Greenpeace a déploré l'usage de lacrymogènes envers des manifestants non violents et des familles. Le pilote d'un hydravion tué dans le crash de son appareil lors d'une fête dans l'Orne. L'avion a pris feu pour une raison inconnue. À l'intérieur également un passager, un homme âgé d'une quarantaine d'années. Il est gravement blessé et hospitalisé à Caen. L'ancien président tunisien enterré cet après-midi en Arabie Saoudite. C'est là que Ben Ali, vivait depuis son éviction du pouvoir il y a 8 ans. C'était le début du printemps arabe. Ben Ali est mort avant-hier à 83 ans. La suite de la journée, de la 6e journée de Ligue 1 de football, la mi-temps. En ce moment, 2-1 pour Brest face à Bordeaux, 1 partout pour Nice, Dijon, Amiens-Nantes face à Metz, Paris pour Nîmes face à Toulouse, toujours 0-0 pour Reims-Monaco. Un peu plus tôt, fin de match houleuse à Marseille, 3 expulsions dont 2 côté marseillais, Camara et Payet. Score final, 1 nul, 1 partout.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
36e édition des Journées du patrimoine. Comment financer la rénovation de certains monuments? Auriane Mancini de Public Sénat, il y a ce projet de loi qui doit arriver logiquement dans les discussions budgétaires au Parlement pour réduire la déduction fiscale pour les mécènes au-dessus de 2 millions d'euros. Et l'État espère économiser avec cela 80 millions d'euros. On l'évoquait avec Guillaume Labbé. Est-ce que la bataille va s'engager à l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des défenseurs de ce qu'on pourrait appeler cette niche fiscale?
C'est une bonne question, Naïla Latrousse. On verra pendant les débats. Mais je voudrais revenir sur
parce que
ce
les
qu'on
associations
disait.
S'inquiètent hein, en disant oui, oui. Oh là là, on va plus toucher suffisamment d'argent, on va toucher aux mécènes.
Oui, non, mais c'est une inquiétude, qui est compréhensible. Hein, mais on verra un peu comment se passent les débats à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat. On le rappelle peut-être pendant le débat sur le loto du patrimoine et ces exonérations de taxes sur le loto de patrimoine qu'avait demandé Stéphane Bern, les sénateurs s'étaient prononcés pour, contrairement à Franck Riester, hein, qui redit d'ailleurs ce matin dans Le Parisien que ce n'est pas une bonne chose. Donc effectivement, il va y avoir un débat sur ce sujet. Mais pour revenir sur l'égalité dont vous parliez tout à l'heure entre les territoires avec la privatisation, eh bien, ça risque de rompre cette égalité justement entre les territoires parce que forcément, le privé va aller vers certains monuments et n'ira pas forcément vers les monuments
les plus rentables, éventuellement.
Exactement, les plus rentables. Et donc, c'est encore une fois les petites communes, les territoires ruraux qui vont se retrouver pénalisés. Et d'ailleurs, Franck Riester le dit hein, ce matin dans le Parisien que les 338 millions d'euros dont vous parliez, Naïla, eh bien, il y aura un fonds spécifique pour les monuments historiques de ces petites communes, ce que le privé ne fera sûrement pas si on privatise ce patrimoine.
Le gouvernement qui a retenu les leçons peut-être aussi des Gilets jaunes et de la fracture territoriale. Juste rapidement, comment parler de patrimoine sans évoquer le cas de Notre-Dame, puisque les statues rescapées de l'incendie sont exposées au ministère de la Culture ce week-end et que les visiteurs peuvent du coup eh bien, profiter un peu de ce patrimoine que l'on croyait perdu. Regardez.
Ce coq en cuivre tout cabossé est un miraculé. Il a été retrouvé dans les décombres de la cathédrale Notre-Dame après une chute de 60 mètres de haut quand la flèche a basculé. Il est présenté au ministère de la Culture avec 3 autres statues déposées juste avant l'incendie pour une restauration. Dans les réserves du Mobilier National à Paris, un autre survivant de Notre-Dame est exposé ce week-end. Ce tapis de cœur de 25 mètres de long pour 8 mètres de large, il avait été retrouvé gorgé d'eau sale.
Et je vois Cécilia Guébuison qui regarde avec émotion ouais. Cet extrait de reportage de nos confrères de France 2.
Ouais, avec moi, comme nous tous, on a été super touchés par quelque chose de millénaire, enfin d'extrêmement ancien qui disparaît, qui est menacé. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y avait aussi dans Notre-Dame un symbole qu'en fait tout peut disparaître. C'est aussi ça. C'était tout peut disparaître. Rien n'est. Et donc là, quand on a sauvé, c'est un peu comme quand on trouve des rescapés. Quand on a sauvé. Les statues, le coq, c'est super émouvant. Ouais.
Auriane Mancini, à vos côtés, évoquait l'interview de Franck Riester dans Le Parisien. Il dit aussi sur le chantier, on n'est pas focalisé sur un calendrier, on a une ambition, 5 ans, mais il n'y a pas de compte à rebours. Est-ce que c'est une forme de rétropédalage après cette pression mise pour un chantier achevé en 2024?
C'est pas une forme de rétropédalage parce que on a assez vite compris que les 5 ans ne seraient pas forcément tenus et que la priorité pour le gouvernement était plutôt que les choses soient bien faites, plutôt qu'elles soient vite faites. Donc j'appellerais pas ça un rétropédalage. Disons que c'est plutôt dans la continuité de.
Peut-être un petit peu quand même, mais c'est bien. Mais c'est bien quand on rétropédale dans le bon sens, c'est bien parce que s'il y a une chose sur laquelle il faut pas être pressé, c'est une cathédrale. on a mis très longtemps à la construire, on l'a gardée très longtemps. Il faut prendre le temps qu'il faut, il faut essayer de faire les choses le mieux possible. Il y a des tas de gens qui sont des experts, qui ont quelque chose à dire là-dessus, il faut les écouter, il faut prendre le temps, ne pas se précipiter, parce qu'après, ça sera magnifique. Quoi.
Il y avait même une discussion symbolique intéressante sur la valeur des cicatrices, parce que finalement, là, on voulait effacer. Il s'était passé un drame, on l'efface.
Exactement.
Et en fait, non. Les cicatrices ont un sens et elles s'inscrivent.
Mais ce sujet de Notre-Dame montre quand même à quel point c'est complètement fou de vouloir pénaliser les entreprises ou les particuliers. Je pense que c'est plutôt des fondations d'entreprises qui veulent mettre plus de 2 millions pour du mécénat. C'est complètement fou. Enfin, moi, je suis très étonné que le gouvernement qui veut restaurer en 5 ans Notre-Dame et qui a dû se réjouir de voir quasiment des milliards tomber pour financer quelque chose qui était l'agence de l'État.
Ils ne sont pas tous tombés.
Oui, mais il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce.
Oui, mais quand c'est des entreprises, elles tiennent leurs engagements parce qu'il y a de la communication financière et que les politiques, si eux, ils reviennent en arrière sur les montants, une entreprise, si elle dit je vais mettre tant, ils se renseignent avant. Et c'est vrai que vouloir raboter et interdire de mettre plusieurs millions sur ce qui est le plus utile à tous, que peut faire une entreprise quasiment, c'est quand même assez bizarre. Je me demande pourquoi le gouvernement fait ça.
Il y avait aussi la question du temps, plus au-delà de la question de l'argent, il y avait la question du temps, d'essayer de se presser pour des échéances qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec Notre-Dame elle-même.
Est-ce que cette précipitation qui fait qu'on a peut-être négligé la question du plomb, Isabelle Alonso?
J'imagine que oui, probablement. On s'est tellement précipité pour dire il faut se dépêcher de tout reconstruire, alors que d'abord, c'est très vrai, cette histoire de cicatrice, il faut garder les marques de ça. Et puis surtout, il faut faire très attention à cette histoire de plomb, parce qu'on s'est tellement dépêché qu'on a négligé, et puis on semblerait qu'on est sur un petit non-dit, là, pour savoir que les dégâts causés par le plomb sont très, très importants, en fait.
20h57 sur France Info. Merci à nos informés du samedi, Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, Oriane Mancini, journaliste politique à Public Sénat, Guillaume Labbé, fondateur de l'agence Comstrat et maître de conférences à Sciences Po Paris, et Isabelle Alonso, féministe romancière, que vous retrouvez notamment sur France 2.